BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer.
Le futur, l'avenir trouve ici chaque semaine son rythme de croisière. Les pros des cryptos le vendredi sur BFM Business. Bienvenue à tous, nos NFT à nous, nos talents non fongibles répondent une nouvelle fois à l'appel de BFM. Claire Balva, directrice générale de La Danne. Elle nous rejoint et elle nous accompagne chaque vendredi. Bonjour Claire.
Bonjour Guillaume.
La semaine dernière, on dit Adam, pas Adam. J'ai révisé toute la semaine. Il nous accompagne aussi cette semaine Owen Simonin, le fondateur de sa chaîne YouTube, Hacheur avec un H au tout début. Il est à la tête également de Meria. Bonjour Owen.
Bonjour.
Ravi également de vous retrouver. Dans un instant, on va parcourir l'ensemble des actualités de cette nouvelle semaine. Mais d'abord, Xavier Fenot, associé pour Interactive Trading, est avec nous. Bonjour Xavier.
Bonjour Guillaume.
Bien, là, on a un Bitcoin qui monte encore, un peu plus de 116 000 dollars aujourd'hui sur le Bitcoin.
Oui, c'est très léger. C'est vrai que c'était quand même la semaine de tous les dangers. Hein. Comme sur les marchés traditionnels, il y avait de très fortes attentes vis-à-vis de la Fed, alors qu'il a baissé ses taux, certes, mais c'était le minimum qu'elle puisse faire. Mais surtout, en fait, le marché en attendait bien plus, de la visibilité, des perspectives, une ligne directrice. Donc, il y avait beaucoup trop d'attentes, je dirais même en fait de certitude, comme quoi une baisse des taux permettrait de relancer vraiment le marché. Mais Jérôme Powell ne peut pas vraiment aller plus loin parce que l'inflation aux États-Unis remonte proche des 3%. Les créations d'emplois ne sont pas bonnes du tout depuis 2 mois. Il y a de grosses divergences d'opinion dans les membres du FOMC. Donc, il a fait le choix que tout le monde attendait, baisser les taux malgré une inflation qui remonte. Alors, on peut pas dire que le marché a apprécié. Je dirais plutôt a été soulagé, mais on s'en sort bien parce que c'est pas dit qu'il y a encore 2 baisses des taux comme c'est attendu d'ici la fin de l'année. Donc, concrètement, depuis le début de la semaine, hausse, mais vraiment très légère. Je dirais même d'ailleurs que le Bitcoin n'a pas vraiment monté, pas vraiment baissé. On est à peu près au même point. Alors, c'est pas négatif, hein, mais le carburant pour aller plus haut et accélérer n'a pas été fourni par la Fed. Il n'y a pas d'alerte tant qu'on tiendra les 113 000 dollars. On a un peu de marge. On reste en tendance haussière à court terme. Et si on dézoome, toujours prendre un petit peu de recul, c'est toujours les 100 000 dollars qui est le repère pour rester en tendance haussière à moyen terme. Moyenne mobile à 50 semaines, c'est la même qui relance systématiquement les cours depuis 2023, quand Bitcoin était à l'époque à 25 000 dollars, on l'a peut-être oublié. Alors, c'est sûr que c'est décevant ce manque de conviction, mais il y a toujours une période de digestion des marchés après un tel événement qui n'a pas délivré, je disais, toutes les réponses finalement qu'on attendait. Je pense pas qu'il faille aujourd'hui prendre de grosses décisions. D'ailleurs, le marché n'en fait pas. Et clairement, le plafond d'air à 118 000 dollars sera très suivi ces prochains jours. Et une fois passé ce petit cap, alors on pourrait envisager le record historique. Donc pour le moment, je reste enthousiaste et on continue surtout à être progressif dans nos choix plutôt que d'agir sous le coup de l'émotivité à trop court terme qui aujourd'hui finalement n'impacte pas les tendances qui sont toujours en place.
Et c'est intéressant parce que évidemment, ça rappellera des souvenirs à beaucoup d'investisseurs en crypto quand le Bitcoin était à 25 000, mais il a même été beaucoup plus bas encore dans les années précédentes. S'il y a bien un actif où pour essayer de comprendre où on va, il faut se souvenir d'où on vient, c'est bien sans doute Bitcoin et Ether. On est à plus de 4 500 dollars, pareil aujourd'hui. Peut-être un mot sur le potentiel technique à venir de l'Ether. On sait les stablecoins en pleine prolifération, aussi à travers la blockchain Ethereum. Quel potentiel technique sur cette crypto Ether d'après vous?
C'est à peu près le même comportement qu'on a eu cette semaine que Bitcoin. Un poil plus faible quand même cette semaine, moins 2%. On a techniquement en fait un plancher qui a été construit tout au long de cette semaine à 4 500 dollars. On n'en est pas loin d'ailleurs, qu'il faudra tenir ce week-end notamment. Mais c'est plus, je dirais, les 4 000, 4100 dollars qui sont vraiment importants à défendre. Donc pour le moment, je reste positif, malgré un peu, on va dire, le manque d'enthousiasme à très court terme. Et puis, au-dessus de la tête, on a un plafond de verre, les 4700 dollars. Ça, c'est le cap à passer pour le relancer dans la fameuse conquête des 5000 dollars qui n'a, jusqu'à aujourd'hui, jamais réussi à atteindre.
Xavier Fenot avec nous, Interactive Trading. Merci beaucoup, Xavier. Et cette question, le Bitcoin à 1 million de dollars, est-ce jouable? Beaucoup d'acteurs du secteur agitent ce chiffre. Marketing ou vrai déclencheur encore à venir? On mettra les pros des cryptos face aux millions de dollars sur Bitcoin. On parlera de Mika, la France qui dénonce certains pays européens qui ne respecteraient pas suffisamment l'application de Mika, qui n'en contrôleraient pas l'application par les différents acteurs de l'écosystème. Alors, quel pays ne joue pas le jeu de Mika et pourquoi ce deux poids deux mesures au sein de l'UE, qui est pourtant supposé être un ensemble cohérent, ce que joue la France aussi à travers cette pression, on en parlera également. Et puis les ETF, est-ce qu'on va vers un open bar total de la SEC, du gendarme des marchés américains? Il se trouve qu'il vient d'adopter des règles qui pourraient permettre à certains altcoins d'avoir eux aussi leur ETF spot. Quels altcoins et quelles sont les prochaines limites? Nos experts, nos pros des cryptos également répondront. C'est votre machine à condenser l'essentiel, elle s'enclenche comme chaque vendredi, c'est parti.
BFM Business, BFM Crypto, les pros.
En plus, il y a un petit parfum d'été là aujourd'hui, très agréable, j'imagine, de venir nous rejoindre à pied, en voiture, en métro, Wen.
Vélo aujourd'hui.
Vélo, waouh.
Gare de l'Est 15e, ça fait une trotte.
Ah, Gare de l'Est 15e, c'était un vélo électrique ou pas?
Oui.
Ah, il a triché.
Avec le sac et le costume quand même.
Ah, quand même. Allez, 40 minutes.
Ouais. Un peu plus.
Un peu plus quand même. Claire, vélo, métro.
Transport en commun.
Transport en commun, voilà, effectivement. On est ravis de vous accueillir l'un et l'autre, effectivement, parce que il y a un parfum de bonne humeur. Le Bitcoin aujourd'hui, ce vendredi après-midi, repart un peu de l'avant. Et on va démarrer par cette question que chacun se pose au fond, lui. Et vous, d'ailleurs, qui nous suivez, vous la posez-vous, cette question? C'est une question que chacun se pose sans doute dans l'écosystème, au fond de lui. Elle repose en chacun de nous. Elle est intime, cette question, et c'est peut-être pourtant celle qu'on partage tous le plus. À quand un Bitcoin à 1 million de dollars? Non, mais franchement, on voit ce chiffre-là qui brille et qui clignote partout, agité, brandi par beaucoup d'acteurs importants, parfois même, de l'écosystème crypto. Il y a déjà plein de planètes alignées pour le Bitcoin. Qu'est-ce qu'il faudrait de plus pour qu'un jour le Bitcoin monte à 1 million de dollars, alors que les planètes semblent déjà presque toutes alignées? Owen.
Du temps. Je suis convaincu que c'est pas une question de si, mais c'est une question de quand. Et pour le coup, il y a de plus en plus d'intérêt par les professionnels, par les institutions, par les entreprises, que ce soit pour justement certaines de ces propriétés, pour les valeurs qu'ils portent, ou tout simplement pour la spéculation et sa récente performance. Donc pour le coup, pour moi, c'est vraiment une question de temps. Il faut que les gens le comprennent. Quand on a vraiment compris l'actif, on y vient à s'y intéresser. Des fois, on est surpris qu'ils viennent se corréler à certains titres, comme par exemple les valeurs technologiques, ou encore anti-corrélation au dollar. Peu importe, la réalité c'est que sur le temps long, quand on le découvre et qu'on voit ce qu'il permet de faire, on finit à un moment ou à un autre par l'adopter ou par changer son avis, comme beaucoup, beaucoup de grandes banques l'ont fait. Donc la question c'est juste une question de temps. Beaucoup d'analystes disent la fin de la décennie, 3, 4, 5 ans. Est-ce que ce sera 3, est-ce que ce sera 6? Je suis incapable de vous le dire et j'insulte plus l'avenir depuis un petit moment. À chaque fois que quelqu'un s'est amusé à donner une date précise, il s'en est mordu les doigts.
Oui, mais c'est une façon aussi de nous dire que pour vous, Bitcoin est inarrêtable. Voilà.
Très clairement. Après, il faut quand même avoir en tête que s'il touche le million de dollars à l'heure actuelle, ça lui donne à peu près 25% de valeur en plus que tout l'or en circulation.
Oui.
Donc, le million, pour moi, n'est pas encore accessible sur du très court terme. Il faut qu'il y ait encore les marchés qui fassent un petit bout de chemin.
Oui. Quel déclencheur encore possible pour permettre un Bitcoin un jour à 1 million de dollars? On en est encore loin, malgré les planètes déjà très alignées, Claire.
Ouais, je pense que cette question et ces annonces sur ce seuil, elles en disent aussi long sur le fait que le secteur et les investisseurs s'auto-persuadent quelque part que Bitcoin va atteindre ce million de dollars. Et je pense que c'est assez logique. À chaque fois que Bitcoin passe un cap, on a passé le cap des 100 000 dollars l'année dernière, on fantasme toujours sur le cap d'après. Donc c'est assez normal, mais là encore, il faut garder la tête froide. Il y a plein de choses qui pourraient pousser le Bitcoin encore à la hausse. On pourrait imaginer un nouvel État émergent qui mène une politique favorable sur Bitcoin, comme ça a été le cas du Salvador. On pourrait imaginer des grandes entreprises hors du secteur de la finance, puisque la finance s'y est déjà beaucoup intéressée, comme les GAFAM qui s'intéressent à Bitcoin et qui font des annonces là-dessus aussi. On pourrait imaginer une réglementation qui permette, par exemple, aux banques d'utiliser Bitcoin comme collatéral pour faire du crédit. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent encore se passer.
Ça commence à poindre, d'ailleurs.
C'est Bitcoin à la hausse, voilà.
Tout à fait.
Aux États-Unis.
Mais là aussi, il faut bien se rendre compte, quand on lit ce type d'article et quand on se pose ce genre de questions, qu'on fait partie d'un sentiment quand même d'euphorie générale sur le cours du Bitcoin.
Mmh. Et après, il y a tout ce qui est réserve long terme.
Oui.
Par exemple, les retraites. On commence à en parler, mais avant que les retraites puissent simplement exposer réellement la retraite américaine au Bitcoin, il va y avoir du temps avant que ce soit réellement adopté. Pareil pour les réserves stratégiques. Aujourd'hui, les États-Unis, par exemple, ne vendent plus les Bitcoins qu'ils saisissent. Il y aura peut-être un jour où ce sera entendable de proposer et de faire entendre aux contribuables qu'une partie de leurs dépenses servira à constituer une réserve. Pour l'instant, c'est vraiment le début de tout ça. Et dès que ça va être positionné sur des fonds long terme, la retraite, par exemple, c'est très long terme, sur une supply de 21 millions d'unités qui ne sera jamais grandissante, où il n'y aura pas d'inflation, naturellement, dès qu'on vient positionner de la liquidité sur du très long terme, on crée un manque de liquidité et on va venir pousser l'actif à la hausse.
Vous parlez d'investissement long terme, il se trouve que la Fed a émis une piste cette semaine. Alors est-ce que cette piste justement apportera un moteur de plus au Bitcoin? Ses deux priorités dans son mandat aujourd'hui, c'est l'inflation et l'emploi, et elle pourrait ajouter parmi ses priorités le fait de maintenir des taux longs, des taux à long terme, donc modérés. Est-ce que ça aussi ce sera un moteur pour le Bitcoin si effectivement ça intégrait les priorités de son mandat?
Alors, les taux de la Fed, c'est un sujet qui est assez ambivalent parce qu'en réalité, quand les taux sont élevés, ça ajoute de la liquidité sur les marchés et donc ça peut aussi faire augmenter le prix des cryptos parce que les investisseurs ont de la liquidité à investir. Mais finalement, quand les taux sont bas, on peut aussi imaginer que les investisseurs se diversifient et vont sur des actifs un peu plus risqués parce que, comme les taux sur des actifs sans risque sont bas, ils vont aller chercher des actifs là où il y a du rendement possible. Donc, c'est difficile de répondre à cette question, mais oui, ça pourrait effectivement permettre au cours du Bitcoin de monter parce que les investisseurs finalement fatigués de voir ces taux longs qui ne sont que modérés pourraient se rabattre sur certains actifs avec plus de rendement comme le Bitcoin.
Ce serait quand même très intéressant pour les États-Unis parce que c'est comme ça qu'ils financent leur dette à long terme. Et vu la dette qu'ils ont, et vu l'intérêt qu'il y a en ce moment sur les obligations, ce serait un bon moyen, sachant qu'ils vont devoir dynamiser le marché des taux d'intérêt directeurs. Et on le voit bien, ça a commencé du coup avec la récente décision de Jerome Powell. Il va falloir à un moment penser à la fois à cette dette, sachant que le dollar pourrait, entre guillemets, perdre de la valeur de cette baisse des taux. Donc ils doivent gérer deux problèmes en même temps. Commencer à se concentrer sur les taux moyen terme, ça va être une approche intéressante.
Ça me fait penser parce qu'on se demande là pour entamer ces pros des cryptos, qu'est-ce qui pourrait faire monter le Bitcoin à $1 million. Nous Européens, tout le monde serait ravi, tous les investisseurs. Bien sûr. Enfin, faudrait pas que le dollar baisse trop quand même, parce qu'il est en train de baisser face à l'euro. Alors pour nous, un Bitcoin à $1 million, ça ferait pas $1 million. Là,
tout à fait.
Et c'est vrai qu'on n'a pas tellement abordé ce prisme, mais quand on dit Bitcoin à $1 million, c'est pas seulement la hausse du Bitcoin, c'est aussi la baisse du dollar. Et donc un des facteurs qui pourrait pousser le Bitcoin à la hausse, c'est tout simplement une très forte inflation. Et une baisse du prix du dollar. Et
oui, c'est ce qui arrive souvent à l'once d'or. L'once d'or monte avec la baisse du dollar, souvent d'ailleurs. Effectivement, et pour nous, Européens, ça rend l'once d'or malgré tout un peu moins performante. On continue de chercher des moteurs potentiels supplémentaires pour le Bitcoin. Et tiens, cette autre info trouvée cette semaine, d'après Fidelity, 42% des Bitcoins seront illiquides, immobiles, paralysés d'ici 7 ans. 42% des Bitcoins. Pourquoi ? Et est-ce que, pareil, ça ferait monter les cours, Owen ?
Alors, dans leur analyse, c'est les bitcoins qui seraient très, très peu liquides. C'est-à-dire qui seraient entre les mains de grandes institutions qui sont positionnées sur du long terme, les exemples que j'ai donnés il y a quelques minutes, ou tout simplement les entreprises cotées qui en accumulent et qui ont pour ligne de conduite de ne jamais en vendre, pour ne pas les citer. Sachant qu'il y a également ce qu'on appelle des bitcoins zombies, des bitcoins qu'on considère comme morts parce qu'ils n'ont pas bougé depuis plus de 10 ans, ou presque, et qu'on a quand même vu quelques whales se réveiller alors qu'on pensait les adresses perdues à jamais, et on a eu un mouvement de 80 000 bitcoins quand Bitcoin a dépassé les $100 000. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que du coup, ce sont des estimations. Ce 42% peut-être un jour, c'est déjà 28% aujourd'hui. Les institutions qui ont promis de ne pas vendre ou de s'inscrire sur le temps très long, plus les bitcoins zombies, qui représentent à peu près 18% des bitcoins aujourd'hui. Et donc, naturellement, quand on sait qu'il n'y en a que 21 millions et qu'on fait des analyses en se disant qu'il y aura plus d'un tiers, donc 42% selon ces analyses de Fidelity, qui risqueraient d'être totalement illiquides, voire de ne plus pouvoir bouger du tout, eh bien, on sait que du coup, ça va être sur encore moins de Bitcoin que vont se faire les hausses et les baisses. Et ça viendra naturellement centraliser l'effet achat et vente. Non pas de la gouvernance du réseau, Bitcoin est totalement décentralisé, il restera, mais ça veut dire que si un gros acteur qui détient beaucoup de Bitcoin décide dans une phase où il y a très peu de liquidité de sortir, peut-être que ça va faire un appel d'air et appeler de la liquidité entrante. Par contre, s'il n'y en a pas, on pourra avoir un swing et des moments de volatilité très forts sur Bitcoin.
Oui. Les pros des cryptos, votre condensé de l'actualité de la semaine. Bitcoin peut-être de plus en plus amené à être illiquide là-dessus. Ça vous fait réagir, ça, Claire? Enfin, c'est pareil. Owen disait tout à l'heure en entamant, Bitcoin, c'est le sens de l'histoire. En tout cas, c'est juste une question de temps. Moins de Bitcoin liquide, c'est aussi juste une question de temps, en l'occurrence.
Oui, il a raison. Et c'est vrai que, qu'on le voit dans le positionnement de Bitcoin aujourd'hui, c'est une sorte d'or numérique. Et l'or aujourd'hui n'est pas si liquide que ça, dans le sens où effectivement des acteurs en stock et n'ont pas vocation à en vendre et à faire du trading toute la journée. Donc on peut très bien imaginer la même chose sur Bitcoin. Effectivement, ce que ça sous-entend quand même, c'est que son utilité et son usage en tant que monnaie se restreint en tout cas sur une masse plus faible du nombre de bitcoins.
Les pros des cryptos, votre accélérateur de compétences. Oui, c'est un nouveau petit slogan aussi, je ne l'avais pas fait. Ben voilà. Il faut toujours savoir. Bref. Et quand même, cette question, jusqu'où réglementer ? Ici, en Europe, la réglementation est assez avancée, évidemment. MiCA, on en a parlé tout au long de ces dernières années, sauf que MiCA n'est pas appliquée de la même façon, n'est pas appliquée autant dans tous les pays européens, et la France dénonce cette situation. Elle entend même la France bloquer les boîtes crypto qui ont la licence MiCA dans des pays qu'elle juge laxistes, dans des pays qui ne contrôlent pas l'application l'identification de Mika. De quel pays s'agit-il ? Est-ce que la menace française sur ces boîtes peut changer les choses ? Claire.
On n'a pas officiellement une liste de pays, même si on se doute bien de qui est visé par cette communication, probablement des pays comme Malte, où les régulateurs sont beaucoup plus pragmatiques que le régulateur français ou d'autres régulateurs européens qui sont réputés plus sérieux. C'est d'ailleurs pour ça que certains acteurs viennent chercher leur agrément en France, c'est parce que la France a une réputation de sérieux, même si c'est un peu plus dur, un peu plus long d'obtenir son agrément. C'est aussi ça qui fait la valeur d'un agrément français. Mais le régulateur français aujourd'hui n'a pas envie d'être dupe et se rend bien compte que d'autres régulateurs sont plus pragmatiques et laissent passer des choses que lui-même ne laisserait pas passer. C'est toute la question de l'application du règlement MiCA. Aujourd'hui, les entreprises font une forme de shopping réglementaire, c'est-à-dire qu'elles se disent, est-ce que voilà, j'ai envie d'aller être agréé en France, quitte à attendre plus longtemps, quitte à ce que ce soit plus difficile à dépenser un peu plus, mais l'agrément aura plus de poids, entre guillemets, mais quel poids finalement en termes de communication, ou alors, voilà, tout simplement d'aller chercher un agrément dans n'importe quel pays, l'objectif étant que ce soit plus facile. Et donc le régulateur français aujourd'hui, il fait une forme de communication politique en disant, grosso modo, on n'a pas envie d'être les dindons de la farce et on ne veut pas que des entreprises qui ont été agréées plus facilement ailleurs en Europe puissent onboarder, bah, par exemple, des citoyens français et proposer leurs services en France, alors que nous, ce qu'on veut, c'est protéger les investisseurs français.
Oui, c'est une forme de concurrence déloyale, là, en quelque sorte.
Tout à fait, et c'est une question sur laquelle j'ai beaucoup réfléchi, j'avais un peu de mal, parce que je ne suis pas d'accord avec moi-même sur beaucoup de choses, parce qu'il y a à la fois l'entrepreneur et il y a à la fois le point de vue externe. L'entrepreneur, il dit que c'est pas du tout quelques pays dont on a le doute, hein, c'est l'Estonie, c'est Chypre et c'est Malte. Et il trouve ça totalement juste que l'AMF tape du poing sur la table, parce qu'à partir du moment où des entrepreneurs français prennent ce chemin de croix d'aller se réguler, qui est très complexe, qui est très long, qui est très coûteux, qui demande des ressources qui sont colossales, pour l'obtenir en France et qui mettent du temps à l'avoir, quand on voit des sociétés de l'international qui viennent, on a l'impression qu'ils remplissent trois papiers dans certains pays et qu'ils ont accès à tout le marché européen avant même que les Français y aient, oui. Naturellement, il y a une injustice et on est bien content de voir l'AMF taper du poing sur la table. De l'autre côté, on peut penser à ces entrepreneurs-là. Attendez, il y a un marché commun, il y a un marché harmonisé, on prend le chemin le moins coûteux, le plus rapide pour pouvoir y accéder. C'est normal, c'est une approche business, c'est intelligent. Et il n'y a qu'en Europe qu'on ne pense pas trop business. En vrai, c'est comme ça qu'on doit fonctionner si on veut, à la fin du mois, réussir à dégager de l'EBITDA. Et on a la position un peu plus réelle et qui est un entre-deux où c'est bien ce que fait l'AMF de taper du poing sur la table parce qu'il faut que ça pose des questions. Ça va peut-être se faire poser des questions au niveau européen et uniformiser la difficulté parce que oui. Si on a des règles communes, on doit avoir une police commune. Par contre, si on vient sanctionner ces sociétés-là, pour être MiCA compliance, on doit passer par des acteurs qui sont MiCA compliance. Et donc, si on n'a pas ces acteurs de l'international, ça va être encore plus dur pour ceux qui sont sur place de l'être. Et là, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc là, je pense que c'était une bonne chose. C'est pas de brider ces acteurs, mais c'était de sonner, de tirer la sonnette d'alarme.
Ouais. Il y a une compétence européenne pour contrôler, mais elle a peu d'outils contraignants. Enfin, voilà, il faut aussi revoir toute cette architecture.
C'est toute la question maintenant, c'est quelle est la solution ? Là, je pense que un des objectifs, ça pourrait être, comme le dit Owen, de rehausser la difficulté des agréments dans certains pays pour que les régulateurs deviennent un peu plus exigeants dans ces pays-là. Ce que demande l'AMF aussi, c'est une supervision européenne, carrément, c'est-à-dire que les régulateurs nationaux ne seraient plus en charge des agréments, mais ce serait une autorité européenne, en l'occurrence l'ESMA, qui serait en charge de délivrer ces agréments pour certaines plateformes qui auraient une taille critique. Ça pose plein de questions sur les moyens de cette autorité. En fait, aujourd'hui, les acteurs français, ce qu'ils veulent surtout, c'est qu'il y ait suffisamment de personnes chez le régulateur pour traiter les dossiers à temps, que ce soit rapide, que ce soit pragmatique, et qu'il y ait des personnes compétentes en face. Donc, est-ce que avoir une supervision au niveau européen, ça résoudra les problématiques de délai qu'on peut avoir au niveau français ou dans d'autres pays, c'est pas sûr non plus. Et puis encore une fois, les acteurs internationaux, par exemple, qui viennent d'Asie ou des États-Unis, où est-ce qu'ils vont choisir de s'implanter ? Dans quel pays ils vont choisir de s'implanter si la supervision est européenne ? Est-ce que vraiment ils viendront en France ? Alors qu'on a, par exemple, une fiscalité quand même nettement plus exigeante que dans d'autres pays européens, c'est pas sûr non plus. Donc, qu'est-ce qui va permettre à la France d'être attractive ? Je suis pas sûr que ce soit une supervision.
Et il y a un pays tout près de chez nous qui s'interroge, être ou ne pas être européen. Les Britanniques, le Royaume-Uni, il est entre deux, hein, il est proche de nous. Enfin, c'est un pays européen, mais avec une assise culturelle et des liens historiques avec les États-Unis. Les États-Unis libèrent davantage l'écosystème crypto que l'Europe. Et là, le Royaume-Uni est peut-être en train de faire un pas plutôt vers les États-Unis que vers l'Europe en matière de crypto. Il se trouve que Donald Trump Trump était à Londres ces derniers jours pour une visite d'État. Alors lui, c'est America First, et il semble que pour les Britanniques aussi, c'est America First. En l'occurrence, les Britanniques et les Américains ont annoncé à l'occasion de cette visite une collaboration plus étroite en matière de crypto, Claire.
Vous savez que le Royaume-Uni, depuis le Brexit, danse sur ses deux jambes, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois proches de l'Europe, mais aussi proches des États-Unis. Et là, on voit bien que sur ce sujet crypto, les États-Unis ont pris le leadership par rapport à l'Europe, et donc c'est tout à fait logique que le Royaume-Uni choisisse de se rapprocher des États-Unis en mettant en place des modèles réglementaires compatibles et en faisant en sorte que ce soit relativement facile pour une entreprise de déployer ses services à la fois aux États-Unis et au Royaume-Uni. Donc c'est une logique business. On constate d'ailleurs que les dirigeants politiques au Royaume-Uni s'inspire un petit peu de ce qui se fait aux États-Unis et sont de plus en plus pro-crypto, ou en tout cas moins anti-crypto qu'avant. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, et je pense que ça va faire bouger les choses en Europe aussi.
Ce qui est frappant, c'est que c'est un gouvernement de gauche en ce moment au Royaume-Uni. C'est un gouvernement travailliste, et c'est lui qui a choisi de faire ce pas vers les États-Unis en matière de crypto, hein, pas très pragmatique. Vous sentez que l'acculturation aux crypto prend aussi dans notre personnel politique ici en France, Wayne ?
En France, non. Ça pas pour le moment. On a quelques députés qui sont très engagés, mais c'est souvent des initiatives personnelles qui viennent pas d'un parti en particulier. Ce qui est intéressant de regarder, c'est que c'est vrai qu'il y a une connotation politique sur le Bitcoin depuis l'arrivée de Donald Trump et sa position. Il y a d'ailleurs beaucoup de gens qui se sont mis en opposition de Bitcoin simplement parce qu'ils étaient en opposition de la politique de Donald Trump. Mmh. La réalité, c'est qu'on le rappelle, c'est un outil, comme pourrait l'être Internet à l'époque. Je pense que beaucoup de partis, même de gauche, l'ont compris dans certains pays. Et donc, on se rend bien compte qu'à un moment, on doit penser à sa politique monétaire, on doit penser à son peuple et on doit penser à la façon dont on a envie de le développer. Et quand on a des technologies qui vont arriver avec ou sans notre accord, soit on l'épouse, soit on se met totalement en marge de ça, mais avec toute la croissance qu'on va laisser passer. Donc, je pense que certains partis, qui d'ailleurs retrouvent également certaines valeurs de Bitcoin, qui conviennent très très bien aux partis de gauche, sont très à l'aise avec le développement de cette technologie et le fait de les promouvoir ou en tout cas de les encadrer.
Cet univers crypto, il a aussi sa part d'ombre. L'Iran, vous savez, en matière géopolitique, l'Iran est sous embargo américain, son pétrole notamment, mais il semblerait que justement les cryptos dont on parle ici chaque semaine aident les Iraniens à briser, à contourner l'embargo. C'est ce que dénonce en tout cas un organisme américain chargé du contrôle, l'OFAC en l'occurrence, Claire.
Oui, l'OFAC est chargé du contrôle des sanctions aux États-Unis et qui dévoile, annonce que l'Iran aurait vendu plus de 100 millions de dollars de pétrole principalement avec du Bitcoin et avec des stablecoins, en l'occurrence Tether. Et donc, ça montre que certaines cryptos peuvent être utilisées pour contourner des sanctions, notamment pour contourner le système SWIFT. Et donc, ça montre toute leur ambivalence, mais ça montre quand même qu'elles sont un outil alternatif en matière géopolitique, en matière monétaire, et que finalement, certains États, certaines entités peuvent prendre leur indépendance par rapport aux États-Unis et l'extraterritorialité du dollar américain en utilisant ces outils-là. La deuxième chose quand même, parce qu'on parle de Tether, qui est un stablecoin dollar, ça va vite poser question, je pense, aux régulateurs américains, parce que si Tether est utilisé pour contourner les sanctions, il s'expose quand même à un certain nombre de problèmes vis-à-vis du régulateur américain qui va leur demander beaucoup plus de surveillance sur leur stablecoin.
Et il y a quand même un petit truc drôle avec ça, c'est que quand on utilise du Tether pour permettre à une entité de vendre ou d'acheter son pétrole, bah mine de rien, on utilise une monnaie backée sur la dette américaine.
Mais oui.
Donc, dans le doute, il y avait quand même une petite réserve de bons du Trésor américain qui était derrière la transaction. Et en plus de ça, ça nous rappelle encore une chose, on le saura toujours quand il y aura des abus sur les stablecoins, et on va en parler beaucoup. Pourquoi ? Parce que c'est transparent et qu'on va finir par le savoir, contrairement à beaucoup d'abus qui sont monnayés, entre guillemets, et des échanges qui sont faits dans d'autres devises, dont on ne parlera jamais, puisque ça ne sortira pas sous les radars. Les stablecoins, comme la plupart des crypto-monnaies, sont totalement traçables, et donc on finira par voir qui les utilise, pourquoi et comment, que ça fasse débat ou non, ce sera à la vue de tous. Et c'est quand même une nuance assez intéressante, je trouve, puisqu'on peut contourner certaines règles avec, mais pas très longtemps.
Effectivement, et on en a la preuve là, et en même temps, c'est l'arroseur arrosé, hein, puisque les Américains veulent employer, utiliser les stablecoins dollars comme cheval de Troie du dollar, et en même temps, ce sont ces stablecoins, en tout cas l'un d'eux, qui, adossé donc à des obligations américaines, permet à l'Iran de contourner l'embargo. L'arroseur américain arrosé. Les ETF crypto, on en est où ? On a vu un ETF spot Dogecoin accepté il y a quelques jours. Même Dogecoin a droit à son ETF ?
Alors, c'est pas un ETF spot, on l'a entendu sur Bitcoin ou sur Ether. C'est un ETF qui permet malgré tout de s'exposer à la valorisation du Dogecoin. Je rappelle que le Dogecoin, en plus d'être un meme coin, c'est le créateur de la vague des meme coins. C'est un morceau de la culture d'Internet. Et c'est même dans la plupart des institutions sérieuses qui se veulent avoir une notation plutôt réelle et intelligente de certains actifs. ça fait partie des plus gros actifs de la crypto et il revient souvent sur la table. Pour vous donner un ordre d'idée, la plupart des plateformes d'exchange au monde, quand elles listent le Dogecoin, aussi sérieux soit-il, ça fait partie des monnaies qui ont le plus de volume et qui sont les plus demandées par les utilisateurs. Donc il y a une réalité, si les gens en veulent, est-ce qu'on doit le lister ? Par contre, ça pose une vraie question, est-ce que c'est une porte ouverte à tous les stablecoins ? Et à ce moment-là, quelle va être la limite et le cadre que va poser la Security and Exchange Commission ? Est-ce qu'il va y avoir des ETF spot ? En tout cas, ça a bien profité au cours qui s'est rapproché des 30 centimes au moment de cette annonce. Oui. Et globalement, je pense quand même que Dogecoin est bien au-delà de certains petits memecoins éphémères qui ont été créés pour profiter. Dogecoin a une histoire qui maintenant date de plusieurs années, qui est quand même robuste et qui est l'un des coins les plus suivis au monde.
Si on avait pensé il y a quelques années que vous parleriez comme ça de Dogecoin, alors ça, c'est, le discours a évolué légèrement, hein, ça reste un memecoin.
Mais j'aurais jamais dû les vendre, ces trucs.
Mais il se trouve que la SEC, elle aussi, évolue un tout petit peu quand même, puisqu'elle a approuvé des règles plutôt favorables à des ETF spot, en l'occurrence, sur de plus en plus d'altcoins, Claire.
Oui, en fait, aujourd'hui, les critères de la SEC, c'est la liquidité, la sécurité et le fait que le jeton ne soit pas ce qu'ils appellent une security. Mais on voit bien que la manière dont la SEC appréhende les securities a beaucoup changé avec la nouvelle administration Trump. Auparavant, même l'Ether pouvait être considéré comme une security. Aujourd'hui, on se rend compte que pour la SEC, il y a... Dans les cryptos, il n'y a plus grand-chose qui est vraiment une security. Donc, on peut imaginer des ETF sur Solana, sur Avalanche. Et on voit qu'on s'oriente même vers des jetons de plus en plus exotiques, hein, dont moi, je n'ai pas forcément entendu parler. Et ça pose quand même la question du statut de ces jetons, parce que ça les légitime d'un coup. Hein, quand vous avez un ETF sur votre crypto, ça vous donne accès à tout un marché. Et donc, la SEC assiste aujourd'hui à un afflux de demandes parce que toutes les fondations crypto ont envie d'avoir leur ETF parce que tout simplement, ça fait monter leur cours.
Oui, et dans l'univers des stablecoins, on voit aussi de plus en plus d'initiatives pour le coup, parvenir à diffuser, infuser dans de plus en plus de sphères en voyant se démultiplier, par exemple, les blockchains utilisés pour la diffusion des stablecoins. On a par exemple vu cette semaine l'USDC annoncer son lancement sur la blockchain hyper liquide. Stablecoin qui progresse, grandit, se multiplie au point que si vous cherchez à vous faire de l'argent, vous qui nous suivez, il y a peut-être l'investissement en crypto et encore c'est spéculatif et volatile malgré tout, on le rappelle, mais il y a aussi peut-être tout simplement le fait de bosser dans une boîte stablecoin. Il se trouve que les rémunérations dans cet univers sont en train de beaucoup progresser, Owen.
Tout à fait. Il y a 3 fois plus de personnes qui sont payées en stablecoin déjà, en plus, qu'il y a l'année dernière, pardon. Et en plus de ça, il y a des salaires qui deviennent complètement dingues dans ces sociétés. Alors, il faut le rappeler, comme dans tous les domaines de la crypto-monnaie, quand il y a une demande complètement folle pour certains produits, quand tout le monde se concentre sur les cryptos ou alors sur un segment particulier de la crypto, il y a des prix qui sont complètement fous, mais qui sont parfois éphémères. Alors encore une fois, quand on est dans une boîte européenne, voire française, des fois on trouve une position et on peut la conserver à travers le temps. Autant dire que dans une boîte américaine, si le poste vaut aujourd'hui 400 et qu'il vaut 100 l'année prochaine, ça va être vite fait, ce sera un remplacement sans poser trop de questions, ce qui est beaucoup plus compliqué dans certains pays européens, évidemment. Le plus important, c'est de comprendre que cette tendance, mine de rien, c'est une tendance de fond. Et c'est pas non plus des postes offerts à n'importe qui, c'est certains postes qui sont stratégiques dans ces entités et souvent des postes avec un certain lien politique parce que on se doit du coup de s'agencer avec le monde traditionnel de la finance, des banques, des dépositaires et on se doit d'avoir un petit peu ce côté diplomate pour pouvoir réussir à distribuer ces produits. Mais en attendant, c'est une tendance qui ne fait qu'augmenter et même quand les crypto-monnaies baissaient, le nombre de stablecoins en circulation augmente et c'est d'autant plus vrai depuis 6 ou 7 mois. Et depuis le Genius Act au mois d'août. Donc globalement, je pense que cette tendance va peut-être se calmer, mais qu'elle n'est pas prête de s'arrêter ou de s'invalider comme d'autres, notamment celle des mêmes coins ou d'autres choses qu'on a vu arriver et qui étaient très éphémères sur le marché.
Oui. Claire, c'est un peu comme au début, on disait il suffit de laisser faire le temps, les rémunérations progresseront, c'est inarrêtable dans cet univers-là ou pas ?
Non, c'est pas forcément inarrêtable, c'est tout simplement le reflet à un moment donné d'un écart entre l'offre et la demande. Et en l'occurrence, les entreprises sur les sujets stablecoin ont besoin de profils très spécialisés sur des enjeux juridiques, sur des enjeux financiers. Donc elles vont aussi aller recruter des profils qui viennent de milieux plus traditionnels et qu'elles vont devoir rémunérer beaucoup plus parce que ces profils sont assez rares finalement. C'est rare d'avoir travaillé dans une banque et d'être aussi compétent sur le sujet stablecoin.
Merci à tous les deux. Les pros des cryptos, chaque vendredi à retrouver sur la chaîne YouTube BFM Crypto et dans nos podcasts et replays, bien sûr. Claire Balva, directrice générale de l'ADAN, Owen Simonin, sa chaîne YouTube Asher.
J'en ai aucune idée.
Il a lu ma question dans ses... Voilà, j'allais lui demander combien il a d'abonnés, combien d'abonnés nouveaux par rapport à la semaine dernière. Vous n'avez pas regardé. La semaine prochaine, je vous la reposerai cette question. Merci beaucoup. Vous êtes à la tête de Meria. Bon week-end à tous.
BFM Business, BFM Crypto, les pros.